RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal des enfants de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. L'Angleterre considère que l'Indonésie est un lieu intéressant pour l'investissement. Le ministre du Commerce priorise le CPO dans la négociation d'accords commerciaux. Gipi prépare une nouvelle géopolitique du tourisme indonésien. Le ministère indonésien de l'Agriculture fournit 100 tracteurs aux Fidji. L'Indonésie et l'Australie intensifieront la coopération dans l'enseignement des langues. Et enfin, l'Indonésie se concentre sur le développement de l'enseignement professionnel. Voici le journal complet. L'Indonésie est un lieu intéressant à investir et il y a beaucoup de nombreuses possibilités ouvertes. Donc, le Royaume-Uni s'engage à établir des partenariats dans divers domaines, notamment les infrastructures, le commerce numérique et les énergies renouvelables. C'est ce qu'a affirmé l'envoyé spécial du Premier ministre britannique chargé du commerce pour l'ASEAN et l'Indonésie, Richard Graham, lors de donner la direction participée par plus de 100 invitations de divers groupes tenues à l'ambassade d'Indonésie à Londres jeudi hors local. L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume-Uni et en Irlande, Rizal Sukma, à l'ouverture de la réunion, a accueilli avec satisfaction la deuxième réunion d'information sur l'Indonésie qui portait sur divers domaines allant de la politique, l'économie, le commerce et l'investissement au tourisme. Auparavant, Richard Graham a également exprimé sa préoccupation de la catastrophe survenue en Indonésie, comme tremblement de terre et l'accident d'avion de Lion Air lundi dernier. Le Royaume-Uni s'est engagé à aider l'Indonésie à surmonter ce problème. Richard Graham, conseiller du Premier ministre britannique dans le domaine du commerce avec l'ASEAN et l'Indonésie, a déclaré que le sérieux de la Grande-Bretagne d'intensifier la relation bilatérale, notamment l'économie, est montré par la nomination de l'ambassadeur britannique en ASEAN, basé à Jakarta. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a admis de prioriser l'huile de palme brute au CPO et ses dérivés lors de la négociation des accords commerciaux entre l'Indonésie et d'autres pays, y compris lors de la discussion entre l'Indonésie et l'accord de partenariat économique global de l'Association de l'essence indo-européenne, IECEPA. Enggartia Stolokita, devant les participants à la 14e conférence indonésienne sur l'huile de palme, IPOC, et de perspective des prix 2019, tenu à Nusa Dua Bali, a déclaré que dans chaque accord commercial, sa partie priorisait CPO. Lors de la conférence internationale assistée par les hommes d'affaires, des universitaires, des observateurs et des agriculteurs, il a affirmé que l'industrie de l'huile de palme avait joué un rôle important dans l'économie indonésienne, y compris la fournition d'emplois et de lutte contre la pauvreté. De l'amont à l'aval, l'huile de palme représente 13,7% des exportations totales de l'Indonésie qui s'élève à 168,8 milliards de dollars américains en 2017. C'est pourquoi il porte toujours le CPO sur les accords commerciaux qui sont signés. L'Association indonésienne de tourisme, GIPI, tiendra une réunion de coordination nationale en décembre prochain pour préparer une nouvelle géopolitique du tourisme indonésien. Le président de GIPI, Didin Junaidi, a déclaré récemment que les informations sur la position du tourisme indonésien et sur le rôle de GIPI dans la réalisation de l'objectif de visite des touristes étrangers 2019 seraient présentées. Selon lui, GIPI fera la mise en œuvre du programme mensuel de GIPI Talk, une bonne training et la fondation de consortiums dans diverses régions et le développement de la coopération avec diverses compagnies aériennes. Didin a expliqué qu'en 2017, le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie avait atteint 14,04 millions de personnes. À la même année, la Thaïlande a enregistré une visite de 35,38 millions de touristes étrangers, 28 millions de touristes japonais et la Malaisie de 25,95 millions de personnes. L'Indonésie cible cette année 20 millions de touristes étrangers. Le ministère du Tourisme en 2018-2019 a préparé des activités stratégiques dans le domaine du développement du marketing touristique. Ce programme comprend les marques charme indonésien et merveilleuse l'Indonésie dans le pays et à l'étranger par le biais de médias numériques et multimédia, le renforcement de la marque dans les principales destinations touristiques et la promotion d'événements régionaux. Le ministère de l'Agriculture fournit une assistance de 100 tracteurs à main au ministère d'État de Fidji. Cette assistance a été remise par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Shukur Irwantoro, au secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture de Fidji, David Kolitagan, lors de la réunion bilatérale tenue au ministère de l'Agriculture, des zones maritimes et rurales et la gestion des catastrophes à Fidji. Pour cette assistance, le secrétaire permanent du ministère de Fidji a exprimé sa reconnaissance. Selon Kolitagan, l'assistance du tracteur à main est très utile pour soutenir le programme de modernisation du secteur agricole de Fidji. L'aide de 100 tracteurs à main sera gérée par plusieurs groupes d'agriculteurs situés dans plusieurs centres de production agricole à Fidji. Pendant ce temps, Shukur a transmis l'expérience de succès du gouvernement du secteur agricole en Indonésie. Ces succès sont entre autres par l'introduction de la mécanisation agricole afin de pouvoir satisfaire les besoins de consommation alimentaire antérieure et même d'exporter vers un certain nombre de pays voisins. Le consulat général d'Indonésie à Sydney et le ministère australien de l'éducation intensifieront leur coopération plus forte, en particulier dans le domaine de l'enseignement de l'indonésien pour les écolières à l'État fédéral de l'Australie. Comme l'a cité Antara à Jakarta, la coopération dans ce domaine est le sujet de discussion lors d'une réunion entre le ministre de l'Éducation d'Australie, du Sud, John Gardner, et le consul général d'Indonésie à Sydney, Heru Subolo, accompagné du consul Hermanus Dimara récemment. Les deux dirigeants ont renforcé le partenariat stratégique entre l'Indonésie et l'Australie au partenariat global. Ce nouveau niveau de partenariat génère l'occasion de coopération et nous encourage en même temps à créer un domaine. Selon lui, l'un des domaines de coopération importants entre les deux pays est l'enseignement de l'indonésien dans les écoles publiques du sud de l'Australie. Le gouvernement indonésien se concentre sur le développement et le renforcement de l'enseignement professionnel. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, lors d'assister à la réunion des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Naupitau, à Myanmar. Muhajir, à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie, avec la 4e plus grande population au monde et une structure de population relativement jeune, s'efforce à obtenir des avantages en améliorant la qualité des travailleurs qualifiés à travers une éducation de qualité. Selon Muhajir, la 4e révolution industrielle est devenue une partie intégrante du monde d'affaires et de l'industrie. Il est important pour l'Indonésie de préparer des jeunes générations qualifiées, notamment les diplômés de l'école, afin de pouvoir entrer dans un monde de travail de plus en plus concurrentiel, varie en accord avec le développement dynamique de l'époque. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Thank you.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les enfants d'Indonésie, un programme qui présente de divers enfants intéressants de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première enfant vient de Palembang, Sumatra du Sud. La mise en place de 5 maisons de culte de plusieurs religions qui sont proches du complexe sportif Jakabiring, Palembang, symbolise que les relations interreligieuses à Sumatra du Sud sont très harmonieuses. Le chef du bureau régional du ministère de la région du Sud de Sumatra, Al-Fajri Zabidi, après l'inauguration de ces maisons de culte, a affirmé que dans le Sud de Sumatra, il n'y a jamais eu de conflit interconfessionnel, si bien que des maisons de culte peuvent être construites adjacentes. Il a déclaré que l'existence de 5 maisons de culte construites dans ce complexe est une fierté pour les habitants du Sud de Sumatra. C'est un symbole d'harmonie, de paix, d'harmonie dans la vie religieuse dans le sud de Sumatra. Al-Fajri a déclaré que, jusqu'à présent, le sud de Sumatra était bien libre de tout conflit religieux, si bien que cela doit donc toujours être maintenu. Selon lui, tout en gardant une situation de sécurité et de paix, sa parti a procédé régulièrement à la coordination entre groupes religieux pour empêcher toute l'action non désirée. Pendant ce temps, le gouverneur de Sumatra du Sud, Herman Deru, a déclaré que l'existence de communautés religieuses était très importante pour maintenir la conductivité régionale. De même, les agents de vulgarisation religieuse ont un rôle important à jouer dans le maintien de conductivité de la vie des communautés religieuses dans le sud de Sumatra. Ensuite, l'enfant de Serang, Banten. Wahidin Halim, le gouverneur de Banten, a publié une circulaire en ce qui concerne le mouvement en commun de prière fardou ou obligatoire 5 fois pour les appareils civils d'État ou ASN dans la province de Banten. La circulaire signée par le gouverneur de Banten, Wahidin Halim, le 30 octobre 2018, était destinée au personnel expert, aux assistants régionaux, aux responsables des organisations d'appareils régionaux, OPD et à ASN, ou employés du gouvernement de la province de Banten. Le contenu de la circulaire invitant ASN musulmans sur son territoire à mener bien le mouvement en commun de prière fardou de 5 fois dans les mosquées et les salles de prière en arrêtant ou en retardant toutes les activités lors de l'entrée des heures de prière. L'invitation a été lancée afin d'augmenter la foi et la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et de soutenir la réalisation de la vision de la province de Banten qui est avancée, indépendante, compétitive, prospère et la bonne morale. Le dernier, l'info de Makassar, Sulawesi du Sud, 16 campus ont participé au concours d'écriture pour les étudiants et au Festival national d'innovation en technologie maritime de 2018 sur le thème « L'innovation dans les sciences et la technologie maritime à l'ère de la révolution industrielle 4.0 » à l'Université Hasanuddin, Makassar, du 2 au 4 novembre 2018. Cette activité est participée par 44 équipes d'étudiants composées de 26 équipes dans le domaine des technologies maritimes, de 8 équipes dans les domaines socio-économiques et politiques et de 10 équipes dans le domaine du Festival de l'innovation. Serviteurs, c'était les enfants d'Indonésie pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 3 novembre. Premièrement, le vice-président de l'Indonésie, Mohamed Hatta, a publié le communiqué 3 novembre 1945. Ce communiqué a encouragé la formation de partis politiques dans le cadre de la démocratie. Avec ce communiqué, le gouvernement espérait que des partis politiques pourraient être formés avant la tenue des élections du corps représentatif du peuple en janvier 1946. Cette déclaration du 3 novembre légitimait également les partis politiques formés depuis l'ère du Pays-Bas et du Japon et continuait d'encourager la création de nouveaux partis politiques. Les efforts du gouvernement pour former des partis politiques ont fait du 3 novembre un événement marquant le début de la démocratie. Cependant, les efforts en vue d'une Indonésie démocratique par la mise en œuvre prévue des élections de 1946 ne pourront aboutir car la nation indonésienne reste centrée sur la lutte pour la défense de l'indépendance en raison de l'arrivée des forces militaires alliées. Ensuite, la lutte pour le Fort Victoria à la ville Ambon. L'existence du Fort New Victoria à la ville Ambon est née de la construction d'un fort portugais sur la côte Hanipopo au XVIe siècle. Le fort a été officiellement nommé Nossa Senhora de Anunciat. Toutefois, selon des témoins oculaires des XVIIe et XVIIIe siècle, parmi les habitants de l'île Ambon, le fort était plus connu sous le nom de Kota Laha, forteresse dans la baie Laha. Kota Laha est tombé des mains des Portugais aux Hollandais. Puis la forteresse changea de nom pour devenir Victoria ou Victoire en 1614 pour rappeler la victoire du Pays-Bas des Portugais. En raison des nombreuses améliorations et modifications, le fort a depuis été nommé New Victoria ou Nouvelle Victoire. Le 17 février 1795, les Hollandais ont rendu ce fort sans aucune résistance à la Grande-Bretagne. En 1802, les Hollandais ont reconquis leur colonie d'Angleterre, mais le 19 février 1810, par le commandant néerlandais, Ambon et ses environs ont été rendus à l'Angleterre sans grande résistance après avoir été encerclés la veille. Le 25 mars 1817, les Britanniques ont officiellement transféré le fort aux Pays-Bas. Le 3 novembre 1950, l'armée dirigée par le lieutenant-colonel Slamet Riady tomba au corps à corps pour capturer la forteresse New Victoria, mais toute la ville d'Ambon fut capturée par les forces armées de la République d'Indonésie. Depuis lors, la forteresse New Victoria a été contrôlée par le gouvernement et confiée à l'armée de terre des forces armées indonésiennes qui en assure la maintenance. Elle est devenue le quartier général du 5e détachement de cavalerie Patimura. Le dernier, l'incendie dans le tunnel Salang en Afghanistan, a tué plus de 2000 personnes. L'incendie du tunnel Salang s'est passé le 3 novembre 1982 pendant l'occupation soviétique en Afghanistan. Cet incident sera probablement l'accident de la route le plus meurtrier au monde et l'un des incendies les plus meurtriers des temps modernes. Le tunnel construit à Salang Pass a été construit par des ingénieurs de l'Union soviétique et est devenu la principale voie de circulation dans la montagne Hindu Kush qui sépare le nord et le sud de l'Afghanistan. L'incendie qui a tué environ 2000 personnes impliqué un convoi de troupes soviétiques se dirigeant vers le sud de l'Afghanistan par le tunnel. Selon la version soviétique, un accident est survenu lorsque deux convois militaires sont entrés en collision dans le tunnel Salang et ont provoqué des embouteillages. Il n'y a pas eu d'incendie ni d'explosion, mais 64 soldats soviétiques et 112 Afghans auraient été tués par le monoxyde de carbone. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en petit titre, l'économie indonésienne est solide malgré la tourmente économique mondiale. Le sous-gouverneur de la Banque d'Indonésie, Rosmaya Hadi, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie restait solide malgré la tourmente économique mondiale. Dans sa réponse, la Banque d'Indonésie a également renforcé la combinaison des systèmes monétaires macroprudentiel et le système de paiement. Rosmaya Hadi a expliqué ce point lors de l'événement Indonesia Briefing 2018 auquel ont participé environ 100 invitations de divers milieux d'affaires à l'ambassade d'Indonésie à Londres, Angleterre, le jeudi 1er novembre. L'événement s'est tenu en collaboration avec le bureau de la Banque d'Indonésie et le Conseil de coordination des investissements BKPM. Rosmaya Hadi, conférencier principal, a déclaré que la Banque d'Indonésie était déterminée à renforcer sa collaboration avec les institutions et les ministères concernés afin d'accroître les investissements et le commerce ainsi que le flux de touristes en Indonésie. En outre, la Banque d'Indonésie s'est engagée à contribuer davantage au lien entre l'unité des relations avec les investisseurs, l'unité des relations globales et l'unité des relations avec les investisseurs régionaux en renforçant les perceptions positives et les entrées de capitaux. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique dans le domaine du commerce pour l'ASEAN et l'Indonésie, Richard Graham, a également pris la parole. Richard Graham a déclaré que le Royaume-Uni avait pour mission d'améliorer les relations bilatérales, en particulier dans le domaine économique, avec l'Indonésie par la nomination de l'ambassadeur britannique auprès de l'ASEAN basé à Jakarta. La réunion Indonesia Briefing a été offerte par l'ambassadeur de la République d'Indonésie à Londres, Rizal Sukma. Dans son allocution, Rizal Sukma a déclaré « L'Indonésie est maintenant la nouvelle Indonésie ». Il a déclaré que l'Indonésie était un pays complexe et pluriel, mais que cela ne devrait pas être considéré comme un obstacle, mais comme une opportunité pour les entreprises britanniques. Pour cette raison, l'ambassadeur Rizal Sukma a exprimé l'espoir que l'événement Indonesia Briefing pourrait répondre à toutes les préoccupations ou questions des hommes d'affaires britanniques liées à faire commerce en Indonésie, en particulier au début de l'année politique 2019. Dans le même temps, le chef de représentant de la Banque d'Indonésie à Londres, Doni Hutabarat, a déclaré à Antara que le deuxième briefing sur l'Indonésie était un événement annuel qui s'inscrivait dans la continuité d'un événement similaire l'année précédente. Cet événement continuera à se dérouler régulièrement afin de pouvoir présenter aux investisseurs, aux hommes d'affaires et aux autres parties prenantes du Royaume-Uni les conditions économiques et politiques actuelles. Cher ami, c'était mon Indonésie.
L'Indonésie est un lieu intéressant à investir et il y a beaucoup de nombreuses possibilités ouvertes. Donc, le Royaume-Uni s'engage à établir des partenariats dans divers domaines, notamment les infrastructures, le commerce numérique et les énergies renouvelables. C'est ce qu'a affirmé l'envoyé spécial du Premier ministre britannique chargé du commerce pour l'ASEAN et l'Indonésie, Richard Graham, lors de donner la direction participée par plus de 100 invitations de divers groupes tenus à l'ambassade d'Indonésie à Londres jeudi hors local. L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume-Uni et en Irlande, Rizal Sukma, à l'ouverture de la réunion, a accueilli avec satisfaction la deuxième réunion d'information sur l'Indonésie qui portait sur divers domaines allant de la politique, l'économie, le commerce et l'investissement au tourisme. Auparavant, Richard Graham a également exprimé sa préoccupation de la catastrophe survenue en Indonésie, comme tremblement de terre et l'accident d'avion de Lion Air lundi dernier. Le Royaume-Uni s'est engagé à aider l'Indonésie à surmonter ce problème. Richard Graham, conseiller du Premier ministre britannique dans le domaine du commerce avec l'ASEAN et l'Indonésie, a déclaré que le sérieux de la Grande-Bretagne d'intensifier la relation bilatérale, notamment l'économie, est montré par la nomination de l'ambassadeur britannique en ASEAN, basé à Jakarta. Le ministre du Commerce, Enggarti Astolokita, a admis de prioriser l'huile de palme brute au CPO et ses dérivés lors de la négociation des accords commerciaux entre l'Indonésie et d'autres pays, y compris lors de la discussion entre l'Indonésie et l'accord de partenariat économique global de l'Association de l'essence indo-européenne, IECEPA. Enggarti Astolokita, devant les participants à la 14e conférence indonésienne sur l'huile de palme, IPOC, et de perspective des prix 2019, tenue à Nusa Dua, Bali, a déclaré que dans chaque accord commercial, sa partie priorisée CPO. Lors de la conférence internationale assistée par les hommes d'affaires, des universitaires, des observateurs et des agriculteurs, il a affirmé que l'industrie de l'huile de palme avait joué un rôle important dans l'économie indonésienne, y compris la fournition d'emplois et de lutte contre la pauvreté. De l'amont à l'aval, l'huile de palme représente 13,7% des exportations totales de l'Indonésie qui s'élève à 168,8 milliards de dollars américains en 2017. C'est pourquoi il porte toujours le CPO sur les accords commerciaux qui sont signés. L'Association indonésienne de tourisme, GIPI, tiendra une réunion de coordination nationale en décembre prochain pour préparer une nouvelle géopolitique du tourisme indonésien. Le président de GIPI, Didin Junaidi, a déclaré récemment que les informations sur la position du tourisme indonésien et sur le rôle de GIPI dans la réalisation de l'objectif de visite des touristes étrangers 2019 seraient présentées. Selon lui, GIPI fera la mise en œuvre du programme mensuel de GIPI Talk, In Bone Training et la fondation de consortiums dans diverses régions et le développement de la coopération avec diverses compagnies aériennes. Didin a expliqué qu'en 2017, le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie avait atteint 14,04 millions de personnes. Allemagne, la Thaïlande, a enregistré une visite de 35,38 millions de touristes étrangers, 28 millions de touristes japonais et la Malaisie de 25,95 millions de personnes. L'Indonésie cible cette année 20 millions de touristes étrangers. Le ministère du Tourisme en 2018-2019 a préparé des activités stratégiques dans le domaine du développement du marketing touristique. Ce programme comprend les marques charmes indonésiens et merveilleuses de l'Indonésie dans le pays et à l'étranger par le biais de médias numériques et multimédia, le renforcement de la marque dans les principales destinations touristiques et la promotion d'événements régionaux. Le ministère de l'Agriculture fournit une assistance de 100 tracteurs à main au ministère d'État de Fidji. Cette assistance a été remise par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Shukur Irwantoro, au secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture de Fidji, David Kolitagan, lors de la réunion bilatérale tenue au ministère de l'Agriculture, des zones maritimes et rurales et la gestion des catastrophes à Fidji. pour cette assistance, le secrétaire permanent du ministère de Fidji a exprimé sa reconnaissance. Selon Kolitagan, l'assistance du tracteur Aman est très utile pour soutenir le programme de modernisation du secteur agricole de Fidji. L'aide de 100 tracteurs Aman sera gérée par plusieurs groupes d'agriculteurs situés dans plusieurs centres de production agricole à Fidji. Pendant ce temps, Shukur a transmis l'expérience de succès du gouvernement du secteur agricole en Indonésie. Ces succès sont entre autres par l'introduction de la mécanisation agricole afin de pouvoir satisfaire les besoins de consommation alimentaire antérieure et même d'exporter vers un certain nombre de pays voisins. Le consulat général d'Indonésie à Sydney et le ministère australien de l'éducation intensifieront leur coopération plus forte, en particulier dans le domaine de l'enseignement de l'indonésien pour les écolières à l'État fédéral de l'Australie. Comme l'a cité Antara à Jakarta, la coopération dans ce domaine est le sujet de discussion lors d'une réunion entre le ministre de l'Éducation d'Australie, du Sud, John Gardner, et le consul général d'Indonésie à Sydney, Heru Subolo, accompagné du consul Hermanus Dimara récemment. Les deux dirigeants ont renforcé le partenariat stratégique entre l'Indonésie et l'Australie au partenariat global. Ce nouveau niveau de partenariat génère l'occasion de coopération et nous encourage en même temps à créer un domaine. Selon lui, l'un des domaines de coopération important entre les deux pays est l'enseignement de l'indonésien dans les écoles publiques du sud de l'Australie. Le gouvernement indonésien se concentre sur le développement et le renforcement de l'enseignement professionnel. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, lors d'assister à la réunion des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Nau Pitau, à Myanmar. Muhajir, à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie, avec la quatrième plus grande population au monde et une structure de population relativement jeune, s'efforce à obtenir des avantages en améliorant la qualité des travailleurs qualifiés à travers une éducation de qualité. Selon Muhajir, la quatrième révolution industrielle est devenue une partie intégrante du monde d'affaires et de l'industrie. Il est important pour l'Indonésie de préparer des jeunes générations qualifiées, notamment les diplômés de l'école, afin de pouvoir entrer dans un monde de travail de plus en plus concurrentiel, varie en accord avec le développement dynamique de l'époque.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la province Java Central pour profiter des délices de Mendut. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. L'Indonésie, en tant que pays aux fortes racines culturelles, possède une grande variété de cuisines, y compris diverses collations traditionnelles. L'une d'entre elles est le mendut. Bien que le mendut soit considéré comme une collation ancienne, il s'avère que le goût présenté ne peut pas simplement disparaître de la mémoire des connaisseurs. Musique. Au passé, Mendut était souvent servi lors de mariages, d'actions de grâce ou lors d'événements routiniers javanais. Le Mendut est également vendu sur les marchés traditionnels. Mais maintenant, cela commence à être difficile à obtenir. Seuls quelques marchés traditionnels vendent encore du Mendut. Par exemple, au marché Gede à Solo et au marché Bringharjo à Yogyakarta. La difficulté à obtenir du Mendut de ces derniers temps peut être due au long processus de production. Quel genre de collation est Mendut? Le Mendut est une collation traditionnelle à base de farine de riz gluante. À l'intérieur, il contient de la noix de coco râpée, mélangé au sucre de pain, puis enveloppé dans de jeunes feuilles de bananier. Pour faire mendut, il faut de la patience. Au début, la farine gluante est mélangée avec de l'eau et fait le mélange jusqu'à consistance mousseuse ou lisse. Ensuite, préparez la noix de coco râpée au goût et mélangez avec de la cassonade finement moulue et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit bien reparti. Après cela, le mélange de farine de riz collant est fait en petites rondes. Puis, le mélange de noix de coco et le sucre sont ajoutés au mélange de farine de riz collant déjà disponible. Une fois que la pâte de riz gluant contient un mélange de noix de coco râpée et de sucre, enveloppez-la d'une feuille de banane. Avant d'être utilisée pour l'emballage, les feuilles de bananier sont séchées pendant un certain temps, de sorte qu'elles ne sont pas raides, faciles à utiliser et à mettre en forme. Pour que la pâte ne colle pas, les feuilles séchées sont enduites d'un peu d'œil. Ensuite, les paquets contenant du mendut sont placés dans une casserole cuite à la vapeur pendant environ 30 minutes afin que le mélange soit bien cuit. Faire le mendut est facile pour ceux qui sont habitués, mais cela prend beaucoup de temps. Pour un paquet de collation mendut, il est vendu à 5000 rupiah. Un paquet contient généralement deux ou trois mendut de couleurs différentes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur l'exposition et forum Indo-Défense 2018. Le ministère de la Défense de la République d'Indonésie organisera du 7 au 10 novembre 2018 au Salon J-Expo Kemayoran à Jakarta une exposition internationale Indo-Défense 2018 Expo et Forum. Cette exposition visait à encourager l'industrie nationale de la défense à se faire concurrence au niveau national et international. Sous le thème « Construire un partenariat mondial pour la défense » afin de garantir l'avenir, cette exposition visait également à encourager l'industrie nationale de la défense à établir une interaction et une coopération avec les acteurs étrangers de l'industrie de la défense et à échanger des informations dans le domaine du développement des technologies de défense. Indo-Défense 2018 Expo et Forum va exposer divers éléments de défense de l'armée de terre, de la marine et de la force aérienne. Pendant 4 jours, les visiteurs ont également la possibilité d'assister aux conférences internationales, aux présentations gratuites de produits techniques, aux démonstrations directes de produits et à la mise en réseau avec des experts du secteur. Il existe également le programme du jumelage B2B qui facilite les réunions d'affaires organisées par les exposants et les visiteurs pendant le salon. En 20 minutes, les entrepreneurs et les professionnels de l'entreprise peuvent identifier et lancer des partenaires B2B et des partenariats commerciaux potentiellement rentables. Les participants et les visiteurs peuvent également assister gratuitement aux présentations de produits techniques. Ce qui est intéressant à cet événement est le Forum international Indo-Défense 2018. Cet événement avait pour but de partager des expériences et d'aborder des problèmes clés dans la région. Ce forum sera l'occasion idéale pour les professionnels de la défense et de la sécurité de faire le réseau avec les leaders de l'industrie. Dans la 8e exposition, il y aura 867 exposants en provenance de 58 pays, où plus de 20 000 visiteurs sont attendus, y compris des responsables ministériels, un commandant en chef et un chef d'état-major de la force. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui va vous présenter les chansons de The Groove. Restez avec nous à www.voynews.id ou 3325 kHz ou par l'application de RRI Play. Et pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée Hayalan ou en français L'illusion. Bonne écoute!
Kini ku sepasang kekasih.
Voilà la chanson intitulée Hayalan, ou en français L'Illusion, interprétée par The Groove, un groupe indonésien formé en 1997. Cette chanson est l'une des chansons célèbres de The Groove, qui raconte de quelqu'un qui rêve d'être un amoureux de quelqu'un qu'il aime, même si, dans le monde réel, ils ne sont que des amis. The Groove a sorti son premier album en 1999 intitulé « Kuingin » ou en français « Je veux ». La présence de ce groupe de musique a pu inspirer la naissance de plusieurs groupes de jazz pop en Indonésie, notamment Park Drive, Malik and the Essential, Ran et Écouter. Comme la plupart des groupes de musique, The Groove a également connu des changements de personnel. Après avoir reposé pendant plusieurs années, ce groupe est réapparu en mars 2007 sous le nom de The Groove Reunion. Et en 2010, ils ont officiellement utilisé un nouveau nom, The Groove, pour montrer leur compacité avec le dernier single intitulé Let's Go ou Réunion. Ce single a eu du succès et a été très bien accueilli dans l'industrie de la musique country. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson intitulée « Kusambut Hadirmu » ou en français « Je te salue ».
Ada satu tersimpan di hati yang tak dapat aku pungkiri, cinta rasa cintaku padamu. Yeah.
chanson intitulée « Kusambut Hadirmu » est sortie en 2013. Le retour de ce groupe de musique a été apprécié par divers groupes. Cela a été prouvé par le soutien de 88 stations de radio qui ont présenté la chanson de deux groupes simultanément le 22 mai 2013. Le lancement de ce single était spécial car il coïncidait avec le 16e anniversaire du groupe. La chanteuse Rika Ruslan a déclaré que le groupe se sentait plus libre en musique. Le groupe a également animé la scène de Java Jazz en 2013. En 2016, le groupe a publié un album contenant 10 nouvelles chansons après plusieurs années de retard. Au même moment, The Groove publié un livre de 19 ans de carrière de The Groove. Bon, chers auditeurs, écoutons les deux chansons de The Groove intitulées Satu Mimpi ou en français Un rêve et Ternyata Aku Salah Mengenalmu ou en français Apparemment j'avais tort de te connaître. Bonne écoute et au revoir.
Semua ini juga terungkap dengan sejumlah kata setulus hati sepenuh jiwa dirimu satu mimpiku.
Yeah.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.